Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il croire à un déconfinement en décembre? Hier, le Premier ministre a annoncé une prolongation pour au moins 15 jours des mesures sanitaires. Et ce, alors que les fêtes de Noël constituent une période cruciale pour les petits commerçants qui craignent désormais de ne pas survivre à ce deuxième confinement. Sans parler de la situation catastrophique des bars et restaurants, certains craignent désormais de basculer dans la pauvreté. Alors à quoi vont ressembler ces fêtes de fin d'année? Ce confinement d'hiver est-il finalement plus difficile à accepter, à respecter? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Commerce, vie familiale, tenir jusqu'à Noël ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jérôme Fourquet. Vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre dernière étude sur le confinement montre que 60% des Français avouent avoir transgressé les règles. Et puis je rappelle votre dernier ouvrage, L'archipel français, aux éditions du Seuil. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Votre dernier édito sur le site de votre journal est intitulé « Le Père Noël n'a pas le Covid ». En duplex, on retrouve également Nicolas Bouzou, économiste, directeur fondateur d'Astérex. Et vous êtes l'auteur de « La mondialisation de demain », c'est aux éditions de l'Observatoire. Et puis enfin, Sophie Fay, journaliste au service économie de l'Obs et chroniqueuse sur France Inter. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. On commence avec vous, Cécile Cornudet. Donc hier, 18h, on était tous devant notre télévision, sauf pour ceux qui regardaient C'est dans l'air, bien sûr, pour écouter Jean Castex. Mais Jean Castex qui est intervenu pour dire quoi, finalement ?
Il est intervenu pour nous doucher un petit peu. Nous doucher et nous passer un petit peu de pommade après. Mais nous doucher parce que, comme vous le disiez, il est dur ce confinement. On a l'impression qu'il n'y a pas d'horizon, qu'on en a pour des mois avant un vaccin. Et il y a eu la semaine dernière quelques bonnes nouvelles quand même. Il y avait ce vaccin, qu'on sait que maintenant on aura un vaccin, on ne sait pas quand, mais on en aura un ou plusieurs. Il y avait quand même ce frémissement dans les nouvelles contaminations. Et donc la tentation, c'était de se dire ça y est. Et non, il a dit, c'est ça qu'il voulait dire hier. Ne relâchez pas les efforts maintenant. La situation à l'hôpital est encore trop dur. Il nous faut encore un peu de temps. Donc ça, c'était la douche. Et pour le baume, c'était quand même, parce qu'il joue sur notre psychologie, il sait bien qu'on ne peut pas tenir comme ça indéfiniment, que c'est très difficile, quand même entrevoir, laisser entrevoir un bout du tunnel proche, Noël, avec une activité quand même dans les petits commerces qui pourrait rouvrir si tout se passe bien le 1er décembre, et les Français qui pourraient, avec plein de conditions, pas des trop grandes fêtes, etc., mais avoir quand même des fêtes de Noël en famille, si la situation sanitaire le permet, à partir du 20 décembre, à peu près au moment des vacances de Noël. Donc, il se sert de Noël. Le gouvernement sait qu'il peut pas, qu'il n'y aura pas d'acceptation sociale à garder le pays complètement sous cloche à Noël. Donc, il pense ouvrir à Noël. On va pouvoir
normalement. C'est notre nouvel horizon.
Voilà, c'est notre horizon. On va quand même pouvoir circuler sans faire des grandes fêtes. Mais ça doit être aussi. Puisque vous voulez Noël, faites un effort jusque-là. Ne relâchez pas les distances, enfin, tous les gestes barrières, parce que la situation à l'hôpital reste dramatique.
Sophie Fay, Jean Castex est aussi intervenu hier soir parce qu'il l'avait promis aux petits commerçants. Il y a deux semaines, quand il a ordonné le confinement à ces petits commerces non essentiels, entre guillemets, eh bien Jean Castex, face à la gronde, leur avait promis une clause de renvoyure, d'ici deux semaines. Et le d'ici deux semaines, c'était hier soir.
C'était hier soir, alors ils sont probablement déçus puisque ils espéraient obtenir une réouverture plus rapide. Il y avait deux tendances, deux lignes dans le gouvernement. D'un côté, Bruno Le Maire qui avait envie d'aller plus vite, avec Alain Griset aussi, et qui s'est fait le porte-parole des petits commerçants. Et puis de l'autre, évidemment, il y a toujours la contrainte sanitaire et la pandémie qui ne ralentit pas suffisamment. Donc, donc voilà, on est entre les deux. Alors, maintenant, il y a quand même un espoir. Il y a un espoir d'ouvrir le 1er décembre et peut-être même avant, puisqu'ils sont déjà repartis à l'attaque, les petits commerçants, en tout cas leurs représentants, leur fédération syndicale, en essayant d'obtenir une ouverture le 27 novembre, vous savez, au moment où il y a ce fameux Black Friday qu'organisent les sites de e-commerce, pour pouvoir avoir un week-end en plus avant Noël. Il faut savoir que c'est 30 à 50% de leurs ventes qu'ils font au mois de décembre, donc un week-end, c'est très important.
Merci Sophie Fion. On va essayer d'améliorer la qualité du son, de la rendre un peu plus aiguë. Jérôme Fourquet, hier, Jean Castex a dit qu'il serait irresponsable de lever ou d'alléger le dispositif dès maintenant. On voit qu'il n'a pas le bon rôle en ce moment, Jean Castex. Comment les Français perçoivent-ils notre capitaine, hein, c'est lui qui nous donne les directives en ce moment.
Alors le capitaine, c'est Emmanuel Macron pour les Français. Voilà. Et néanmoins, le capitaine a envoyé
au front
son Premier ministre. Il est là pour ça. Et pour l'instant, c'est lui, effectivement, qui paye, en termes de popularité, cette période qui est difficile et douloureuse pour nos concitoyens. Alors, on n'a pas encore de sondage réalisé après l'intervention d'hier, mais les dernières enquêtes disponibles montraient que depuis le reconfinement, la popularité du Premier ministre s'était fortement érodée. Et elle s'est érodée à la fois parce que les nouvelles ne sont pas forcément bonnes, et aussi parce qu'on a eu, vous en avez parlé sur ce plateau, des couacs de communication, du tangage entre le pôle sanitaire et le pôle économique au sein du gouvernement. Et donc tout cela a brouillé quelque peu le message et l'image du Premier ministre. Mais les Français ne s'y trompent pas, ils savent qu'il y a un conseil de défense qui se réunit à l'Élysée et qu'en dernier recours, en dernier ressort, c'est Emmanuel Macron qui donne les inflexions et les directives. Et donc, quelque part, là, Jean Castex fait office de fusible dans une période qui est très difficile. Et c'est lui qui endosse l'impopularité de ces mesures. Alors, les Français sont assez partagés. Hein. Une récente enquête nous montre que 41% d'entre eux souhaitent que les mesures soient renforcées,
ah oui,
contre 32% qui souhaiteraient qu'elles soient allégées. Et donc, c'est très difficile de démêler tout ça. Alors, peut-être que ce haut pourcentage de Français qui souhaitent que les mesures soient renforcées sont dans la disposition d'esprit qu'indiquait Cécile Cornudet, à savoir, on fait des efforts maintenant pour sauver Noël. Et c'est sans doute sur ce registre-là, ce ressort-là, une espèce de carotte comme ça qui nous laisserait entrevoir que Jean Castex essaie de jouer. Mais nos concitoyens voient ce qui se passe dans les pays étrangers, entendre les responsables hospitaliers ou les praticiens qui voient les courbes monter, les admissions en réanimation à l'hôpital. Et donc tout ça pèse quand même très, très fortement dans leur jugement. Et donc on n'est pas sur une fronde immense en disant qu'est-ce que c'est que ces mesures qui n'ont ni queue ni tête. On a ce bruit de fond, mais dans leur fort intérieur, beaucoup de Français sont inquiets et espèrent que peut-être en faisant encore quelques efforts, on va pouvoir sauver à minima Noël.
Nicolas Bouzou, avec votre cabinet Asterès, je sais que vous sondez hein, la psychologie et la pensée des petits patrons. On se dit quel climat anxiogène en ce moment. Il y a ce virus, il y a la menace terroriste, et on est d'ailleurs 5 ans après les attentats du 13 novembre. Il y a ces faillites en cascade. La France vit... c'est une crise où qu'on regarde et dans quelques directions qu'on regarde en ce moment.
Oui, c'est une triple crise. Alors, c'est bien évidemment une crise sanitaire. On a eu aujourd'hui des données de l'INSEE qui sont très intéressantes, qui ne sont pas des données sanitaires, mais qui portent sur la mortalité. Et l'INSEE montre qu'on a à nouveau un mouvement de surmortalité hein, qui est assez fort depuis à peu près une quinzaine de jours et qui est à peu près sur la même trajectoire que ce qu'on a eu au printemps. Alors, on n'est pas encore au niveau de surmortalité du printemps, mais en tout cas, on a une courbe hein, qui commence à épouser la même qu'au printemps. Donc, on voit les effets démographiques hein, d'ores et déjà de cette crise sanitaire. La crise économique, je dirais que pour l'instant, c'est encore celle qui est la plus contenue parce qu'on a en France des dispositifs de soutien public qui sont sans doute parmi les plus ambitieux au monde. On a un peu plus de chômage, c'est vrai, on l'a vu dans les chiffres du troisième trimestre, mais en termes de faillite, je dirais que le gros est sans doute encore devant nous. Et puis on a, vous avez tout à fait raison, cette crise sécuritaire. Et au fond, la France est le seul pays au monde qui connaisse toutes ces crises à la fois. C'est-à-dire que vous avez des pays qui ont des crises sanitaires graves, mais qui n'ont pas de crise sécuritaire. Vous avez des pays qui connaissent des problèmes sécuritaires, qui peuvent même être en guerre, mais qui n'ont pas de crise sanitaire. La France est le seul pays hein, à connaître tout ça à la fois. Et d'ailleurs, j'ai eu des réunions distancielles, bien évidemment, avec quelques collègues étrangers ces derniers jours. Et ils sont quand même tous impressionnés de la résilience du peuple français. J'écoute évidemment attentivement Jérôme Fourquet. Les Français ne se rendent peut-être pas compte qu'à l'étranger, le sentiment qui prédomine, c'est quand même celui d'un peuple qui est très résilient eu égard à ce qui nous tombe dessus collectivement.
La France restera donc totalement confinée, au moins jusqu'au 1er décembre. Sans surprise, Jean Castex a douché hier les minces espoirs de reprise d'activité pour les restaurateurs notamment. Selon l'exécutif, l'épidémie a certes perdu un peu de sa vigueur, mais la pression exercée sur les hôpitaux reste trop forte pour lever les restrictions. Sujet de Magali Lacroze et Christophe Roquet.
C'est à lui, le Premier ministre, que revient la charge d'annoncer les mauvaises nouvelles. Après deux semaines de reconfinement, pas de changement, pas d'inflexion des mesures, la France reste reconfinée pour au moins deux nouvelles semaines.
Mon rôle n'est pas aujourd'hui dans le sens de la facilité, de céder à la pression, de faire ce qui serait espéré par beaucoup, et je les comprends, au risque de tout compromettre et de nous obliger à refermer dans deux semaines et peut-être pour tout le mois de décembre.
Depuis quelques jours, les indices n'étaient pas bons. Mais ce restaurateur parisien espérait encore hier pouvoir rouvrir son établissement. Il avait investi 5000 euros pour durcir le protocole sanitaire et protéger ses clients. Pari perdu.
Nous avons mis des plexiglas pour faire en sorte que les personnes autour de cette étoile puissent être en sécurité. On est en situation vraiment désastreuse, c'est-à-dire on ne sait pas quoi faire et on espère que les aides vont nous faire en sorte de tenir la tête hors de l'eau, mais nous commençons à avoir beaucoup de difficultés à y croire.
Hier soir à la tribune, Bruno Le Maire pourtant rassurait les commerçants, les restaurateurs impactés une nouvelle fois par la fermeture de leurs enseignes. Mais la confiance peu à peu disparaît face à l'incertitude qui dure.
Les commerçants qui sont fermés administrativement, tous, sans exception, ont le droit à une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros pour le fonds de solidarité. Ils ont droit à l'activité partielle, à l'exonération de charges sociales et au report du remboursement des prêts garantis par l'État.
Comment gérer les incompréhensions des uns et des autres, l'angoisse d'un avenir sans horizon? Après les annonces de l'exécutif, les élus locaux sont en première ligne. Dans la région Grand Est, très touchée par la première vague, des aides d'urgence ont été débloquées.
Compte tenu de la situation dans laquelle se trouvent les commerçants, nous avons décidé hier en assemblée plénière effectivement de les aider de manière tout à fait particulière avec une prise en charge possible de leur loyer, une digitalisation, la mise en place de places de marché, 17 mesures, 55 millions d'euros. Je crois que c'est considérable, mais c'est un effort absolument normal et indispensable.
Certains, au contraire, déplorent un manque de concertation de l'exécutif avec le terrain.
Le fait d'accompagner des mesures gouvernementales, comme la plupart des maires le font, ne nous interdit pas d'avoir des idées sur la question et ne nous interdit pas de demander au gouvernement de nous consulter le plus possible sur les mesures qu'il entend prendre. Le contact direct avec les forces vives de la cité, c'est nous qui les avons, c'est pas à Bercy ou à Matignon. On ne peut pas traverser cette crise en privant nos concitoyens de liens sociaux. Les magasins, ce ne sont pas que des entités économiques, ce sont des facteurs de lien social.
Dans les hôpitaux, la situation est encore très tendue, avec 386 nouveaux patients admis en réanimation ces dernières 24 heures. Mais le virus circule un peu moins vite, avec un taux de reproduction de 0,93% en France. Rien n'est encore gagné, mais un premier espoir se dessine pour les épidémiologistes.
On voit une reprise en main du contrôle sur l'épidémie. On n'a plus affaire à cette courbe exponentielle. Il faut maintenant poursuivre ses efforts pour qu'elle redescende. Si le R passe au-dessous de 0,7 ou de 0,6, la redescente sera rapide et on peut espérer que dans 15 jours, on soit au-dessous des 5000 cas par jour.
Combien de temps le reconfinement va-t-il durer? Les commerces et restaurants seront-ils rouverts pour les fêtes de fin d'année? Allons-nous pouvoir nous déplacer, voir nos proches? Déjà, l'exécutif prépare les Français à un Noël un peu particulier.
Question téléspectateur. Pourquoi Jean Castex n'a-t-il pas insisté sur le fait que ce confinement est très peu respecté? Ce serait plus efficace de le durcir que de le prolonger. Cécile Cornudet, c'est vrai, il y a beaucoup de monde dans la rue.
Oui, mais parce que c'est voulu comme ça. Ce n'est pas le même confinement que la dernière fois. On peut emmener son enfant à l'école, les écoles restent ouvertes, la plupart des entreprises doivent travailler. Je rappelle que le premier confinement où tout le monde était sous cloche avait quand même duré 2 mois. Là, on n'est qu'à 15 jours. Donc certes, c'est prolongé, sans doute jusqu'au 1er décembre et sans doute au-delà, même si les commerces vont rouvrir jusqu'à peu près au 20 décembre. Donc on aurait à peu près 6 semaines de confinement light. Donc ce serait toujours plus court, pour répondre à vos téléspectateurs, que celui de la dernière fois, si ça marche. Et d'une certaine façon, ils vont le durcir puisqu'il va y avoir plus de contrôle. C'est ça qui a sans doute manqué jusqu'à présent, c'est que c'est institué peu à peu l'idée que, bon, tiens, j'ai oublié mon attestation, personne ne m'a contrôlé, je la prends plus. Là, ils veulent remettre des policiers dans la rue, pas seulement en province, parce que ça c'est un des soucis, c'est que beaucoup de contrôles se font dans les villes de province parce que c'est plus simple, parce qu'il y a moins de circulation. Il ne faudrait pas qu'il y ait le sentiment que c'est toujours... la même chose que Paris, on est plus cool avec Paris, mais donc il y a vraiment la volonté de contrôler plus à Paris.
Sophie Fay, mais même le télétravail est moins respecté. On voit bien que, aussi bien d'ailleurs du côté employeur que du côté employé, on a moins envie de s'imposer le télétravail.
Alors ça change vite parce qu'on a bien vu que d'une semaine sur l'autre, on a déjà augmenté la proportion. On était à 2 jours et demi de télétravail la semaine dernière et on est passé, ou la semaine d'avant, et on est passé à 3 jours. Entre 3 et 4 jours, plus près de 4 d'ailleurs la semaine dernière. Donc les entreprises prennent conscience petit à petit de la nécessité de revenir à un confinement quand même plus strict.
Mais ce qui était vu autrefois, le télétravail, comme une opportunité, on disait génial, on n'a plus à prendre le transport en commun, est vu aujourd'hui comme une contrainte. Et c'est pareil pour le premier confinement, ce qui était vu comme une protection, on reste chez soi, on est protégé, aujourd'hui est vu comme une contrainte. Ce deuxième confinement, alors qu'il est plus light, on a l'impression, est perçu comme plus agaçant, plus intrusif.
Oui, on a envie de retrouver du travail en équipe, on était revenu de vacances en ayant envie de lancer des projets, de travailler sur des projets, donc il y a une grosse envie de faire ça. Il y a aussi des entreprises qui ont pris des mesures sanitaires qui sont assez importantes, donc partout vous avez du gel, partout vous avez du plexiglas, les gens portent le masque, les collaborateurs respectent bien ça, donc on a aussi le sentiment qu'on peut aller au travail, qu'on peut se rencontrer en courant moins de risques que lors du premier confinement où on n'avait pas les équipements et on ne savait pas très bien comment interagir avec ce virus. Et puis, il faut reconnaître aussi que petit à petit, on commence à comprendre le fonctionnement de ces tests, on y a accès plus facilement, on isole plus rapidement les gens qui sont cas contact, donc on se sent aussi un peu plus en sécurité d'une certaine manière, même si le virus circule encore et même si on voit ces statistiques qui sont évidemment inquiétantes.
On a un petit peu moins peur. Jérôme Fourquet, on commence pas à l'apprivoiser, mais finalement, il est là dans notre vie, ce virus, il nous fait un peu moins peur. Il y a votre sondage, 60% des Français reconnaissent transgresser les règles, plus 27 points par rapport, donc un doublement par rapport au premier confinement.
Alors, avoir transgressé au moins une des règles, c'est-à-dire qu'on avait une batterie d'items où on demandait pour emmener les enfants, le télétravail, faire ses courses... être sorti.
On triche, on met motif impérieux pour aller voir des amis.
Voilà, où on doit sortir une heure, on sort une heure et demie, ou on sort deux fois par jour.
On a même vu sur France 2 des reportages avec un monsieur qui avait plusieurs attestations dans sa poche. Une pour 3 à 4, une pour 4 à 5.
Alors après, comme disait Cécile Cornudet, ça a été aussi en partie pensé comme ça. C'est-à-dire pas pour permettre la resquille et la fraude, mais pour laisser quand même une respiration à la fois à la société française et également à l'économie française. Vous vous rappelez que lors du premier confinement, par exemple, parce que là, on parle beaucoup du télétravail, il y a beaucoup d'emplois qui ne sont pas télétravaillables. Pendant le premier confinement, tous les chantiers du bâtiment, par exemple, s'étaient arrêtés du jour au lendemain alors qu'on travaillait en plein air et qu'il y avait déjà des masques de protection dans certains chantiers de démolition, par exemple. Là, aujourd'hui, on a laissé la possibilité de travailler. Donc, ça, je pense que ça correspond aussi à un besoin de la population. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que même si on peut avoir des exemples où l'impression comme ça que tout ça est une passoire et que rien n'est respecté, on a d'autres statistiques qui montrent par exemple pour l'Île-de-France, parce que c'est facile à mesurer, que la fréquentation des transports en commun est en baisse de 50% par rapport à la moyenne. Le premier confinement, c'est 90% ou 95%, plus personne ne prenait le transport. Là, c'est 50%, donc on voit bien qu'il y a quand même toute une partie de la population qui joue le jeu. Et si le virus, de nouveau, circule peut-être un peu moins vite qu'il y a quelques semaines, c'est parce qu'il y a toute une partie de la population qui se déplace moins. Alors, c'est un très difficile réglage à opérer, à la fois pour le gouvernement et aussi pour nos concitoyens qui, parfois, sont un peu divisés ou paradoxaux et avoir le sentiment que c'est surtout les autres qui trichent ou qui resquillent et que si on nous impose ça à nous, c'est parce que certains n'avaient pas joué le jeu, etc., etc. Et donc, la colère, elle ne se dirige pas uniquement vers le gouvernement, mais aussi vers les autres. Vous l'aviez entendu chez certains petits commerçants qui disaient que c'est toute la profession qui est punie dans la restauration parce que quelques-uns n'avaient pas respecté les choses. Et donc, quelque part, pour revenir à votre point initial, la société française, petit à petit, apprend à vivre, selon les expressions consacrées, avec ce virus. et avec tous les atermoiements et les réglages que ça implique.
Nicolas Bouzou, Jérôme Fourquet disait oui, ce confinement, bah, y a plus de monde dans la rue, mais ça a été pensé comme ça. Ça veut dire qu'au fond, on a davantage écouté les entrepreneurs cette fois-ci. Est-ce qu'on peut parler d'une ligne, Bruno Le Maire, qui dit attention, économiquement, nous ne supporterions pas le choc d'un confinement tel qu'il a été dessiné au printemps dernier ?
Oui, clairement. Alors, en réalité, il y a deux lignes. Hein. Il y a une ligne dure qui est la ligne Castex-Véran et une ligne qui est un petit peu moins dure qui est la ligne Macron-Le Maire. Il est clair qu'on a un deuxième confinement qui est pensé pour laisser respirer l'économie. Et d'ailleurs, on le voit déjà dans les chiffres. Hein. La Banque de France a publié des enquêtes d'opinion réalisées auprès des chefs d'entreprise qui montrent que au printemps, au point bas du printemps, du premier confinement, on avait une activité qui avait diminué de 30% par rapport à son niveau normal, donc une récession de 30%, c'était quelque chose qui est absolument exceptionnel. En novembre, on devrait être à 12% de moins que le niveau normal. Donc on a bien une baisse d'activité par rapport à la normale, une récession qui est brutale, mais elle est quand même moins de deux fois moins brutale qu'elle ne l'était au printemps. Alors avec des disparités absolument exceptionnel en fonction des secteurs, parce que vous avez des secteurs qui vont très bien, le secteur de l'agroalimentaire, hein, ça fonctionne très bien. Vous avez des secteurs qui vraiment ont appris à travailler avec le virus, l'industrie, le bâtiment, les travaux publics, il y a vraiment des mesures de distanciation, d'hygiène qui permettent vraiment au secteur de bien fonctionner. Et puis vous avez évidemment des secteurs dans lesquels la situation est catastrophique. Si vous prenez la restauration, alors même qu'il y a de la livraison, qu'on peut faire des sortes de click and collect, on est à peu près à 10% de l'activité normale, une baisse de 90% par rapport à une activité normale. Donc vous avez vraiment des secteurs qui sont dans une immense souffrance.
Cécile Cornudet, vous disiez tout à l'heure, l'objectif c'est de lever ce confinement le 20 décembre. On a l'impression que ces vacances de Noël, on parlait tout à l'heure d'horizon, mais même qu'elles ont quelque chose, on n'ose pas. Ce n'est pas les vacances de la Toussaint, Noël. Un Noël en Zoom, ça n'est pas possible. Envisageable.
C'est sacré. Voilà. Déjà, il y avait eu un peu ce phénomène avec les vacances d'été, à la fin de l'autre confinement. On se demandait, est-ce qu'on pourra partir en vacances d'été ? Les Français, c'est quand même... Mais alors là, Noël, c'est sacré pour le commerce. Tous les petits commerces, il y en a énormément qui font 40-50% de leur chiffre d'affaires à ce moment-là de l'année. Et puis, c'est sacré pour les familles. C'est se retrouver, c'est voir les personnes âgées. Donc, on ne peut pas enlever ça aux Français. Je pense que c'est absolument impossible. Parce que dans ce second confinement, il y a l'aspect répétition qui est très difficile. La première fois, il y avait plein de tribunes.
Des
blagues sur Internet. Des tribunes qui disaient qu'il y aura un monde d'après. Voilà, on vivait collectivement quelque chose d'extraordinaire. Là, comme vous avez les 60% ou 70% des gens qui vivent presque normalement, ceux pour qui ce n'est pas le cas, ils vivent durement les choses. Les personnes âgées, par exemple, ma maman me disait, par rapport au premier confinement, il n'y a plus l'élan de solidarité qu'il y avait la première fois. Et c'est vrai, on ne sait plus au cœur des reportages qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les petits vieux et leur apporter des repas. Donc ça, tout ça pèse sur le moral. Donc évidemment, il y a Noël au bout du tunnel. Ça, je pense que c'est impossible de l'enlever. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas que derrière, que ce soit accompagné d'un signal dans l'esprit des gens de « ça y est, c'est fini » et que derrière, en janvier, on reparte pour un troisième reconfinement. Et là, ce serait vraiment très difficile.
Alors, surtout que derrière Noël, Jérôme Fourquet, il y a le 31 décembre. 31 décembre, c'est des fêtes. D'ailleurs, Jean Castex, déjà, a dit que ce ne serait pas raisonnable, c'est une litote, de vouloir organiser de grandes fêtes. Mais là, vous allez avoir des fêtes clandestines de jeunes, non ? Alors, heureusement, ce sera après Noël. Donc, ils ne seront pas censés voir leurs parents derrière. Mais est-ce que ce n'est pas ça que redoute le gouvernement ?
Alors, si. Alors, rappelez-vous, là aussi, on a l'impression que c'était une autre époque. Le 21 juin... La fête de la musique, les débats, comment on peut priver les jeunes de faire la fête, rappelez-vous tout ça. Ensuite, il y a eu les rêves plus ou moins sauvages qui ont été organisés pendant l'été, les rencontres sur la plage en Bretagne et ailleurs. Et donc, collectivement, je pense que la société française se rend compte aussi que ce grand moment de respiration qu'ont constitué les vacances d'été, eh bien, ont été, comme les épidémiologistes, à un moment où le virus a été réensemencé dans la société, qu'on est en train de payer aujourd'hui le contre-coup de tout cela. Donc, évidemment, il y aura sans doute des fêtes clandestines, etc. Le but pour le gouvernement, c'est de restreindre le plus possible le nombre de ces fêtes et l'ampleur des personnes qui s'y rendent pour essayer de limiter un petit peu la propagation du virus. Mais encore une fois, les Français apprennent tout cela. Vous parliez des personnes âgées. Vous avez aujourd'hui, je pense, beaucoup de discussions dans les familles en disant, si tant est qu'on ait le droit de se rassembler à Noël, est-ce qu'on se rassemble à trois générations, à 15 ou 20 personnes? Est-ce qu'on va prendre le risque d'exposer nos grands-parents, nos oncles et tantes plus âgés, etc., etc. Donc les Français apprennent et intègrent tout cela.
C'est-à-dire que de nous-mêmes, sans, on serait capable de se dire, bah non, cette année, ce sera Noël sans les grands-parents.
Ce qu'on disait, il y avait de la risquille sur, j'ai le droit de sortir une heure, je sors une heure et demie, mais je me promène avec un masque, je ne mets pas en danger grand monde. Le fait de dire, je rassemble toute ma famille, trois générations, dans un même lieu pendant trois ou quatre jours, ou même deux jours, beaucoup vont réfléchir à deux fois, parce que ces images de personnes âgées atteintes a imprimé la rétine de très nombreux Français.
C'est une grande idée, vous parliez de votre mère. Est-ce qu'on a l'impression qu'il y a un troisième âge qui finalement se fait de l'auto-confinement? Vous savez, ce fameux confinement solidaire dont on ne veut pas entendre parler, qui consiste à cibler les personnes vulnérables, c'est-à-dire les plus âgées, en leur interdisant de sortir du fait qu'ils sont plus vulnérables. Est-ce qu'au fond, finalement, ils ne se l'imposent pas à eux-mêmes?
Si, bien sûr, mais avec le risque de s'étioler, parce que toute leur vie, c'est la vie sociale, c'est les bridges, c'est se réunir avec les amis. Donc, au bout d'un moment, c'est vrai que ça pèse énormément sur le moral. On parle des personnes âgées, mais il y a aussi les jeunes. Avoir 20 ans encore une fois en 2020, c'est très, très difficile. D'où, d'ailleurs, la question, est-ce que...
Pas de bar le soir, pas de cours en université.
Voilà. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont partis se confiner à la campagne, qui ont loué des maisons, pour faire, comme de toute façon, les universités sont fermées, pour travailler à distance. Et là, ce qui se dit, c'est, bon, ben, on va peut-être pouvoir faire la fête le 31 décembre, faire venir tous nos amis parisiens dans la maison qu'on a louée. C'est un petit peu ça qui court, donc il faudra quand même faire très attention. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, Jean Castex dit pas de fête à plusieurs dizaines de personnes, mais ils ne pourront pas l'interdire.
Fleuristes, coiffeurs et autres marchands de jouets pourront-ils rouvrir à partir du 1er décembre? C'est ce qu'a laissé entendre le Premier ministre hier, si les conditions sanitaires le permettent. Pour les commerces qualifiés de non essentiels, cette attente de deux semaines peut sembler interminable. Beaucoup se retrouvent au bord de la faillite. Voyez ce reportage en Ille-et-Vilaine de Julien Launay et Juan Nguyen.
Au hall de Dinard, tous les commerces peuvent encore accueillir leur clientèle, à une exception près. Cette fleuriste n'a pas d'autre choix que de fermer sa boutique.
C'est un commerce non essentiel, donc en fait, je n'ai pas le droit d'ouvrir. Donc tout le monde passe devant mon étal, tout le monde vient chez le poissonnier, le boucher, à côté, à la boulangerie, et en fait, on ne peut pas m'acheter de fleurs à moi.
Situation forcément difficile à vivre, mais pas question de baisser les bras et de renoncer à toute activité. Audrey Goron a une astuce, faire appel à des commerçants autorisés à ouvrir pour vendre ses bouquets. Ce jour-là, elle vient en déposer dans une boulangerie.
Je te mets une petite cagette dehors avec des petits rosiers, des trucs comme ça. Et on voit si on nous dit quelque chose, et ben on l'enlève.
Une solution qui ne résoudra pas tous les problèmes. Elle s'inquiète pour Noël, car c'est l'autre période cruciale de l'année avec la fête des mères. Et ce ne sont pas les dispositifs mis en place pour la soulager financièrement qui rassurent.
Oui, on a des aides, ouais, c'est super. Je préfère pas avoir d'aide et puis être ouverte, en fait. J'ai pas envie d'être assistée, j'ai juste envie de gagner mon argent. Et puis avec cet argent, voilà, je l'ai gagné. C'est des valeurs que j'ai, c'est des valeurs que j'inculque à mes enfants. C'est important, on travaille, on gagne de l'argent.
Travailler autant que possible, c'est aussi une obsession dans ce magasin d'ameublement et de décoration. Situé à Saint-Malo, il est considéré comme non essentiel, mais continue à recevoir la clientèle sur rendez-vous.
Ça, c'est en quelle matière, ça ?
C'est un velours de coton.
Peu importe l'interdiction, la gérante contourne la règle en offrant un produit de première nécessité, comme un pied de nez face aux restrictions.
Je vais vous laisser prendre une ou deux baguettes, qui est le symbole d'une solidarité de tous les commerçants, on va dire, indépendants de Saint-Malo.
Sylvie Scotti est une femme en colère. Il y a d'abord un sentiment d'injustice chez cette indépendante.
Ça, c'est ce que vous voyez quand vous arrivez dans les Leroy Merlin, à l'accueil. D'acheter des vis et d'acheter des pots de peinture, c'est pas essentiel. C'est comme chez moi, d'acheter de la déco, c'est pas essentiel.
C'est deux poids, deux mesures ?
Bien sûr, bien sûr. Le Roi Merlin n'était pas ouvert lors du premier confinement.
La crise sanitaire lui coûte cher, d'autant que Sylvie Scotti devra bientôt honorer un paiement de 450 000 euros. C'est le montant des marchandises stockées depuis la mi-septembre, avant le deuxième confinement.
on a beaucoup acheté parce qu'on croyait un Noël formidable par rapport à une crise qu'on a eue pendant ces 2 mois de fermeture. Donc on a tous beaucoup acheté. Et on va se retrouver. Comment allons-nous faire pour payer nos fournisseurs, pour payer nos loyers? J'ai vu des nuits où j'allais vraiment me demander si j'allais pas faire quelque chose d'irréversible.
Et à l'autre bout de la chaîne, les fournisseurs sont eux aussi en souffrance.
C'est bon, là maintenant, c'est terminé, là?
Oui.
D'accord.
Ce fabricant breton de jouets en bois est contraint de ralentir la cadence. Les grandes surfaces et les enseignes spécialisées n'ont plus le droit d'en vendre.
Pour l'instant, on avait encore quelques clients, notamment l'export, à livrer. Il est clair qu'aujourd'hui, la production, après le 15, je pense qu'on va mettre un stop. Le commerce en période de fin d'année, quelque activité que ce soit, c'est plus criant dans le jouet, bien entendu, mais le commerce en fin d'année, c'est quelque chose de crucial. C'est-à-dire que les gens qui ont des loyers à payer, qui ont des employés, qui ont des personnes, qui font vivre des transporteurs, parce qu'il y a toute une chaîne indirecte autour de cette activité, qui est énorme. Et là, on ne peut pas comprendre ce genre de situation. C'est qu'on nous fasse confiance.
L'entreprise réalise près d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Préjudice de ce deuxième confinement, estimé à 120 000 euros.
Alors, question téléspectateur, quels sont précisément les commerces non essentiels qui pourraient rouvrir au 1er décembre? Sophie Fay, on a vu le drame de cette patronne de boutique qui est qualifiée de son magasin est non essentiel. Et voilà, on voit que c'est, comme dit Geoffroy Roux de Bézieux, le travail d'une vie qui risque de s'effondrer.
Alors,
j'en perds mon français.
Vraiment, Alain Griset et Bruno Le Maire ont perdu leurs arbitrages sur la possibilité d'ouvrir un peu plus tôt pour ces magasins non essentiels, entre guillemets. Autant, ils ont quand même gagné leurs arbitrages sur la possibilité de renforcer considérablement le fonds de solidarité ou de renforcer l'avantage fiscal dont bénéficierait un bailleur qui déciderait de ne pas toucher tous les loyers d'ici la fin de l'année. Donc il y a quand même la possibilité pour ces commerçants d'avoir un vrai soutien de l'État, et il y a peut-être parfois des difficultés administratives, des difficultés informatiques, des obstacles, mais la volonté du gouvernement, la volonté de Bercy, c'est vraiment d'essayer de soutenir tout le monde. Il y avait une difficulté aussi avec les banques qui peut contribuer aussi à l'angoisse de ces commerçants, puisqu'elles ont été vraiment très solidaire au premier confinement, et là en laissant elle-même plus inquiète sur la survie de ses commerces, donc plus tendue dans leur soutien. Et le gouvernement leur a demandé, les députés aussi qui ont mis sur pied une commission pour surveiller bien tout ce qui se passe et comment se passe ce soutien à l'économie, leur ont demandé de faire preuve de bienveillance et de, jusqu'à la fin de ce confinement, d'essayer de les soutenir. Alors, ce qui va réouvrir, c'est tous les commerces, sauf la restauration qui resterait, elle, encore sous cloche, et peut-être aussi les salles de sport. On commence à avoir des études où on voit où les risques de contamination sont les plus forts, et les risques de contamination sont très forts dans ces commerces où on ne porte pas le masque.
Donc, c'est terrible, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'espoir. Alors, eux, ils ne voient pas le bout du tunnel, pour le coup, les patrons de bars ou les salles de sport.
Alors pour eux, effectivement, pour l'instant, on ne voit pas le bout du tunnel, et l'angoisse est très forte parce qu'on pensait, on a pensé pendant plusieurs mois qu'il y aurait cette solution du vaccin ou cette solution du traitement. Et maintenant, quand on discute maintenant avec les grands laboratoires ou avec les consultants qui travaillent sur ces stratégies de vaccination, eh bien on se rend compte qu'on est encore très loin. On se rapproche du vaccin, mais on est encore très loin de la campagne de vaccination générale qui permettra de revivre normalement. On aura au départ des vaccinations sur des populations ciblées, sur les personnels soignants, sur les gens qui sont le plus à risque. Mais on n'est pas encore à ce moment où on vivra avec le vaccin vacciné, donc on vivra normalement. Donc c'est vrai que là, il y a une angoisse. Tout le monde en est conscient. Aujourd'hui, Accor a été dégradé par les agences de notation. Donc, on voit bien qu'il y a un risque systémique pour ce secteur. Et le gouvernement en a conscience. Mais pour l'instant, il est vrai que sur le plan sanitaire, on peut difficilement faire autrement.
Voilà. Y compris les grands groupes. Accor, qui est le géant européen de l'hôtellerie, groupe français. Jérôme Fourquet, c'est vrai qu'il y a un fonds de solidarité qui a été renforcé. Néanmoins, on a entendu cette chef d'entreprise, ce petit commerçant, cette femme, dire dans le reportage de Julien Launay et Wan Nguyen, je n'ai pas envie d'être assistée.
Alors, c'est ça qu'il faut avoir en tête. L'autre appellation générique pour ces métiers, ces professions, c'est des indépendants. Ils sont indépendants. Ils ont monté leur propre affaire. Hein, c'est comme ça qu'on dit. Souvent, c'est le projet d'une vie. Ils s'assument eux-mêmes.
Ils ne demandent rien à personne.
Ils ne veulent rien demander à personne. Alors, ça peut être, c'est très remarquable. Ça pose toute une série de questions en période de tension, hein, puisque vous avez des filets de protection qui sont bien moindres que pour les salariés, a fortiori pour les fonctionnaires. Et c'est aussi des professions ou des groupes sociaux qui n'ont pas l'habitude de s'organiser. Ils jouent souvent en solo. Il y a bien des confédérations d'artisans, de commerçants, des associations de commerçants du centre-ville, mais si on compare à un autre secteur qui pourrait être un peu similaire, celui de l'agriculture, il n'y a pas d'organisation syndicale extrêmement puissante qui savent organiser des manifs en 48 heures, faire le siège des préfectures, etc. etc. Et donc le risque, c'est d'être en difficulté, en souffrance, tout seul. On entendait de manière très poignante cette commerçante de Dinard qui disait qu'elle avait un moment pensé peut-être à commettre l'irréparable. On a réalisé à l'IFOP, là, il y a une dizaine de jours, une enquête pour la Fondation Jean Jaurès sur les risques psychosociaux et les tensions et les idées suicidaires dans la population. Et donc on voit qu'il y a deux groupes qui se démarquent très clairement. Les chômeurs, alors c'est quelque chose d'assez attendu et classique qu'on avait déjà observé dans d'autres études, mais également pour la première fois, les commerçants et les artisans. Et donc là, on a un risque sans doute qui est majeur. Parce que, comme on le connaît déjà dans le monde agricole, autre univers d'indépendants, avec des gens qui ont peu de filets de protection et qui ont vu le nombre de suicides très fortement augmenter ces dernières années, on pourrait assister en silence à ce genre de désespoir. Parce qu'encore une fois, c'est le projet d'une vie. Et donc, c'est votre fonds de commerce, c'est votre retraite, c'est l'estime, votre estime de vous-même qui est en jeu.
Nicolas Bouzou, vous les connaissez bien, ces petits patrons. C'est Geoffroy Roux de Bézieux, à nouveau, je le cite, je le disais, hein, il parle du travail de toute une vie, il parle aussi de leur patrimoine, c'est-à-dire que c'est leur entreprise, leur petit commerce, c'est leur retraite qui est en train de s'écrouler devant leurs yeux. Est-ce qu'il y a, oui, il y a un côté, j'ai plus rien à perdre maintenant.
Oui, absolument. Alors, l'État français a fait beaucoup, il y a énormément d'aides. Mais d'une part, ces aides, elles fonctionnent à rendement décroissant, c'est-à-dire que beaucoup d'entreprises se sont endettées lors du premier confinement, c'est ce qu'on appelle les PGE, les prêts garantis par l'État, mais il est difficile d'accumuler de la dette quand on n'a pas de chiffre d'affaires ou quand on a peu de chiffre d'affaires. Le chômage partiel, déjà ça marche quand on a des salariés, mais même on voit que c'est très difficile de laisser des gens en chômage partiel plus de 6 mois parce qu'ils se démotivent, parce qu'ils s'éloignent de l'entreprise, parce qu'ils peuvent aussi éventuellement se déqualifier s'ils n'ont pas de formation continue. Et puis de façon plus générale, il y a des trous dans la raquette. C'est-à-dire que si vous avez une entreprise de plus de 50 salariés, il y a moins d'aide. Si vous êtes une entreprise qui ne fait pas l'objet d'une fermeture administrative, il y a moins d'aide. Si vous avez un chiffre d'affaires qui a baissé de 20-30% et pas de 50%, il y a moins d'aide. Alors, ça veut dire que, et moi, c'est la pédagogie que j'essaie de faire auprès du gouvernement, c'est qu'aujourd'hui, la meilleure politique économique, c'est la politique sanitaire. C'est-à-dire que la meilleure politique de soutien aux entreprises, c'est de ne pas rater le deuxième déconfinement, c'est quand on pourra déconfiner, de réussir le tester, tracer, isoler. Et la vraie relance, ce sera quand on aura un vaccin. Parce qu'il faut bien comprendre que du strict point de vue économique, le fait, si jamais on a un vaccin, le fait d'avoir une vaccination de masse à la fin du premier semestre 2021 ou en septembre ou en octobre 2021, la différence, ce sont des dizaines de milliers de chômeurs et ce sont des milliers de faillites d'entreprises. Vous voyez, donc cette question de la stratégie sanitaire et éventuellement, le cas échéant, de la stratégie vaccinale, c'est une question économique absolument majeure. Parce que ce que l'on voit bien dans les pays asiatiques, par exemple, qui contrôlent le virus, mais qui vivent avec le virus. C'est que le fait de vivre avec le virus, même s'il circule à bas bruit, ça diminue quand même le rythme de croissance de l'activité économique de moitié. Et donc, pour que nos commerçants retrouvent une vie à peu près normale, il faut en réalité que le virus disparaisse. Donc ça, c'est soit l'immunité collective, soit le vaccin. Et donc, cette question du vaccin, c'est une question en réalité économique absolument cruciale.
Cécile Cornudet, pour revenir sur le désespoir de ces petits commerçants, de ces petits patrons qui ont mis toute leur vie et dont l'entreprise constitue tout le patrimoine, est-ce que le gouvernement s'inquiète de ce que ce désespoir se transforme en colère et voir Raymond Soubi parler d'un risque de révolte de gilets jaunisation?
On ne sait pas, il n'y a pas d'organisation politique, mais on ne sait pas comment ça peut prendre. Est-ce qu'il y a eu un peu des manifestations à Toulouse notamment, mais quels sont les actes de violence qui peuvent se passer? Ce qui les mine complètement, c'est le sentiment d'injustice. D'abord, souvent à Paris, par exemple, ils ont déjà eu des grosses difficultés à cause des gilets jaunes, à cause des grèves des retraites. Ça fait des années, en fait 3 ans, qu'ils n'arrivent plus à ouvrir, à Paris en tout cas. Et puis, quand vous avez ce confinement light, où vous avez l'impression que tout le monde est dehors, sauf vous.
Ah bah, y a un petit patron dans Le Parisien qui dit « Quand je vois les gens s'entasser chez Monoprix, ça me déprime. »
Je comprends très bien que ça le déprime. Il a l'impression d'être le seul à être confiné, en réalité. Et en plus, il y a cette chose qui est compliquée à comprendre, c'est qu'eux, ils ont l'impression d'avoir fait des efforts en termes d'accueil, de jauge, de savon, de tout ce qu'il faut. Ils sont préoccupés de leurs clients, ils sont préoccupés de leurs salariés. Mais là, on leur demande de penser intérêt général, en disant c'est parce que ça accroît la circulation des gens, donc du virus, que vous soyez ouverts. Mais c'est pas du tout ce sur quoi, en plus ils sont indépendants, eux peut-être l'intérêt général c'est un tout petit peu plus compliqué. C'est un raisonnement qui est vraiment en deux étapes pas facile à comprendre. Donc quand vous accumulez tout ça, et puis en plus ce sont déjà eux qui ont souffert lors de la première vague. Donc ça fait quand même beaucoup de choses et ils ont l'impression aujourd'hui d'être vraiment les sacrifiés de ce confinement.
Sophie Fay, nombre de ces petits commerces ne survivront pas. À quoi vont ressembler nos centres-villes une fois que tout cela sera terminé? Je vous pose la question parce qu'il y a 2 semaines, l'Obs a fait sa une sur quitter les métropoles. On sait que les métropoles se battaient depuis 2 ans, hein, même le gouvernement, avec l'opération Cœur de Ville pour essayer de faire revivre nos centres-villes. À quoi ressembleront-ils une fois que tout cela sera terminé? Car un jour, ça sera terminé.
Ben, ce qu'on voit, c'est que cette action cœur de ville, elle fonctionne parce que ce que recherchent les familles qui décident de quitter Paris, ils recherchent ces villes à taille humaine, ces villes où, en se promenant, on peut faire son marché et aller dans des boutiques sympas, ces villes où on connaît son commerçant, ces villes où le commerce, le libraire, le fleuriste, tous les commerces de bouche définissent votre identité, le fait que vous soyez Dijonais ou que vous soyez Angevin. Donc c'est très important. Donc on voit que il y a une tendance des Français qui vont dans ces villes, qui choisissent ces villes, à avoir envie de travailler avec ces commerçants. Et on le voit, il y a eu 2 enquêtes en septembre des grands émetteurs de cartes bancaires qui montrent qu'ils veulent soutenir le commerce parce qu'ils savent que les Français, les consommateurs ont envie d'avoir ces centres-villes qui revivent. Alors, ce n'est pas facile à faire revivre partout. Il y a des villes qui y arrivent, il y a des villes qui y arrivent moins bien, mais on voit que, en tout cas, c'est ce à quoi les habitants de ces villes aspirent.
Jérôme Fourquet.
Juste peut-être deux remarques là-dessus. On comprend mieux, en écoutant Sophie Fay, pourquoi beaucoup de maires sont montés au créneau pour défendre les petits commerçants. En disant, nous, ça fait des années qu'on essaie de revitaliser nos centres-villes. Et là, avec ces mesures, on est en train de mettre à bas tous les efforts que nous avions accomplis. Le deuxième point, c'est que si une partie de la population peut être soucieuse de pouvoir se promener dans des centres-villes commerçants, on voit quand même que la tendance de fond, c'est l'explosion du e-commerce, qui a été considérablement amplifiée lors du premier confinement, mais qui continue maintenant. On verra ce qu'il en sera, par exemple, pour les achats de Noël. Et donc, quand on parle e-commerce, on parle Amazon, mais ça va bien au-delà. Et donc, on a aussi tout le secteur de la logistique, de la livraison, hein, qui, là aussi, pour revenir sur votre question, à quoi peuvent ressembler nos centres-villes de demain? Peut-être dans pas mal d'endroits, avec des pas de porte vacants et avec peut-être plus de camionnettes de livraison.
Ça fait pas rêver, hein.
Pas forcément, mais alors.
Des camionnettes garées en double fil et des boutiques fermées.
Alors, on pourrait avoir des vélos aussi, mais on voit il y a des millions de Français qui ont basculé dans le e-commerce à l'occasion du premier confinement. Alors, on peut panacher les deux, c'est-à-dire faire quelques achats à proximité et puis le reste en e-commerce. Sur le lien avec tout ça et la traduction politique, il vient bien évidemment à l'esprit quand on parle de petits commerçants, le mouvement Poujade dans les années 50. Ou Gérard Nicou et le CID Unati dans les années 70. À chaque fois, c'est des crises qu'a connues le secteur du petit commerce, des crises d'adaptation. et la montée en puissance de la grande distribution. La différence, c'est que par rapport à cette époque-là, ils sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'étaient à l'époque. On a retrouvé des vieilles enquêtes de l'IFOP lors du mouvement Poujade. Les commerçants artisans, à l'époque, c'est 10% de la population française.
Là, on parle de 200 000 petits commerces qui seraient en danger.
Là, c'est alors 200 000 qui pourraient réouvrir le 1er décembre, qui sont fermés administrativement. Si on élargit un petit peu à tout le petit commerce, c'est 2% de la population. Donc, ils sont indépendants, ils sont peu organisés et ils pèsent assez peu. Donc, quand on parle de mouvement gilet jaune, le retour, les gilets jaunes, c'est toute la France périurbaine ou périphérique qui se déplace en voiture. C'est des millions et des millions de Français. Ouais. Là, on peut avoir un soutien d'opinion via nos sondages en disant on comprend et on compatit vis-à-vis de nos petits commerçants, mais en termes de force sociale, ils ne pèsent pas ce que peuvent peser d'autres groupes. Oui.
Cécile Cornudet.
Pour être positif, il y a aussi dans des crises des moments de réinvention. Et là, il se passe quand même des choses. Du coup, il y a beaucoup de petits commerces qui sont en train d'essayer d'inventer des nouvelles choses. Il y a des maires, par exemple, dans des petites villes.
Qui se mettent à faire des sites internet.
Voilà, avec tout leur commerce pour aider leur... On a tous appris le mot click and collect aussi. Voilà. Donc ça, tous les libraires, il y a beaucoup, beaucoup de petits commerces qui font ça. Et il y a des aides du gouvernement pour les aider eux-mêmes à venir dans le e-commerce. Donc... Bon, essayons d'être positifs et peut-être de ce moment naîtra au moins ça.
Alors, on l'a compris, donc le confinement va donc durer, un confinement qui fragilise encore un peu plus les personnes sans domicile fixe. Ce sont les grands oubliés de l'épidémie, ils passent souvent sous les radars des politiques de santé. Pour les aider, des infirmiers de l'hôpital de Valenciennes vont à leur rencontre. Vous voyez ce reportage de Mélanie Nunes et Diane Cacciarella.
Fruits, sandwichs et yaourt. Donc là, on les a mis dans les glacières qu'on va charger pour notre maraude de ce soir.
De la nourriture offerte par l'hôpital de Valenciennes. Depuis la deuxième vague de l'épidémie, des infirmiers vont à la rencontre des sans domicile fixe et leur apportent une aide médicale. 17h, départ pour la maraude. Trois fois par semaine, ils sillonnent Valenciennes et 82 communes alentour. Depuis la crise, il constate la présence de nouveaux précaires dans les rues.
Il y a une explosion des 18-25 ans, qui représente entre un tiers et un demi de la population qu'on soigne actuellement.
Ce soir-là, justement, ils ont rendez-vous avec quatre jeunes SDF sur un parking, tout près d'une voie ferrée. L'enjeu pour eux, créer un lien.
Le fait d'avoir le sandwich, le yaourt, tous les trucs comme ça, en plus, sincèrement, ça permet de pas... Quand on mange pas, c'est le cas de le dire, on tombe plus facilement malade.
Ils n'ont ni couverture sociale, ni logement, et vivent dans cette voiture.
C'est notre maison, tout simplement. On ne perçoit rien du tout. On est quatre jeunes à ne percevoir aucun salaire, aucun revenu. On se débrouille en faisant du porte-à-porte quand on tombe sur des âmes charitables, par chance. Le moindre billet qu'on puisse se faire, on se garde et on se le partage entre nous pour pouvoir faire la semaine.
Car depuis le confinement, impossible de trouver un emploi. Paul et ses collègues viennent cette fois en aide à Eric, SDF de 51 ans.
Ben, j'aurais voulu un sac de couchage si vous aviez, mais bon... Ben,
on va regarder, ouais. on va t'en prendre.
Et une paire de gants peut-être, ça, si c'est... Ouais.
Sans emploi, il vit dans un squat à Denain, l'une des villes les plus pauvres de France.
Des frais, tu veux dire ? Je dors dans un genre de blocos, c'est une turbine, mais c'est un genre de blocos. Et puis, voilà. Je bouge tout le temps parce que je ne peux pas rester là à rien faire. Sinon, c'est trop long.
Tu ne ressens pas de symptômes en ce moment ?
Non.
Non ? Non. Si jamais c'est le cas et que tu souhaites te faire dépister, tu peux nous en parler.
Ouais, d'accord. Ouais.
Eric aimerait aussi trouver un logement pour se protéger de ce virus. Retour à Valenciennes, dans un foyer de grande précarité. Ici, 5 éducateurs sont positifs au Covid-19.
Bonjour.
Vous pouvez vous asseoir.
Une vingtaine de bénéficiaires ont accepté d'être testés.
Ça chatouille.
Ouais. Ça fait pleurer parfois. Super. C'était très courageux. Bon. Du coup, les tests, effectivement, s'ils sont positifs, vont vous être communiqués dans les 48 heures.
D'accord. Ah d'accord, 48 heures, c'est parfait. Oui. Ouais, c'est important qu'on pense aussi à nous. On n'est pas marginalisés, on est comme tout le monde. Il faut qu'on se fasse dépister. On a peur de l'avoir autant le pauvre que le riche.
Car difficile pour eux de respecter les distanciations sociales.
Ce sont des personnes qui à la rue, sont dans des squats, qui dorment dans une voiture à quatre. Donc, c'est pas respecté, c'est une évidence. Ici, dans les centres d'hébergement, c'est de la collectivité. Ils partagent des chambres à trois, quatre.
Depuis deux semaines, de plus en plus de personnes en précarité sont testées positives. Un risque majeur, car elles ont déjà une santé fragile.
Elles souffrent déjà de pathologies chroniques, parfois d'addiction. Elles ont un accès aux soins qui est parfois plus compliqué. Elles ont besoin d'accompagnement.
Un accompagnement médical essentiel pendant cette pandémie.
C'est fini. On a connu Tristan à la rue. Premier contact pendant les maraudes nocturnes.
C'est ça. D'être dans la rue, c'est assez dur quand même. C'est assez dur, donc faut tenir le coup. La santé, des fois, on fatigue plus. On ne dort pas beaucoup. On dort des 20 minutes, des fois des 15 minutes. Le corps fatigue. Donc, en vrai, d'avoir des petits relais de santé, ça fait toujours du bien. Ils ont le cœur sur la main. C'est des gens extraordinaires.
Les sans-abri, grands oubliés de l'épidémie. Selon certaines études, ils ont trois fois plus de risques d'être hospitalisés en cas d'infection au coronavirus.
Alors, question téléspectateur, pourrait-on mettre en place un impôt de solidarité pour aider les plus démunis ? Sophie Fay, c'est Louis Gallois, l'ancien patron de la SNCF, qui aujourd'hui dirige la Fédération des acteurs de la solidarité, qui déclare « Je ne suis pas contre le fait qu'il y ait une solidarité qui s'exprime dans la crise par des impôts sur les personnes les plus riches ».
Alors ça semble tout à fait logique puisqu'on voit bien qu'on a beaucoup parlé pendant le premier confinement et on va en reparler dans celui-ci, qu'il y a eu une hausse très importante de l'épargne des Français, mais on voit bien que cette hausse de l'épargne, elle est concentrée sur les 10% les plus aisés et évidemment elle est nulle, voire négative, sur les 10 ou 20% des ménages les moins aisés qui eux au contraire ont dû, n'arrive pas à se nourrir ou bien ont dû puiser dans le peu d'économie qu'ils avaient. Et donc, ça serait logique de mettre en place cet impôt, mais n'oubliez pas que le gouvernement qui est en place en ce moment a supprimé l'impôt sur la fortune et donc n'a aucune envie d'en remettre en place une autre version. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'on a vu que dans la dernière crise, la crise financière, on avait le fait d'augmenter les impôts juste en sortie de crise pour essayer de rééquilibrer les finances publiques ou de financer par des impôts l'aide aux moins aisés, eh bien, a cassé la reprise. Et donc, l'obsession de Bruno Le Maire et d'Emmanuel Macron en ce moment, c'est de ne rien faire qui puisse casser la reprise, de n'envoyer aucun signal de hausse d'impôts. Donc, d'un côté, ça semble effectivement moral, mais peut-être qu'économiquement, tant que l'État peut emprunter sur les marchés financiers et tant que l'économie n'a pas encore vraiment repris, peut-être qu'économiquement, peut-être que l'économie et la morale ne se rejoignent pas pour une fois.
Jérôme Fourquet, c'est vrai, on voit apparaître une nouvelle pauvreté, les jeunes notamment, des gens qui jusque-là étaient inconnus des radars des associations.
Inconnus ou qui étaient juste au-dessus. Et donc on a par exemple des statistiques dans les Restos du Cœur, au Secours Populaire ou au Secours Catholique, dans les fameuses maraudes, là où les distributions de repas, qui indiquent qu'à peu près 50% des bénéficiaires étaient inconnus de ces organismes ou de ces ONG. Alors quand je dis ils étaient juste au-dessus, c'est souvent des catégories de travailleurs pauvres, des gens qui avaient des jobs saisonniers ou des jobs étudiants. Le Premier ministre hier s'est alarmé du fait que le nombre d'emplois étudiants avait été drastiquement diminué. Mais c'est assez logique, beaucoup étaient serveurs dans des bars, travaillaient à la plonge dans des restaurants, etc., etc., ou travaillaient dans l'événementiel, c'est-à-dire du babysitting, des choses comme ça. Tous ces jobs-là ont été laminés par la crise. Ça, c'est pour les jeunes. Pour d'autres activités, on avait des gens qui étaient parfois, souvent en CDI, mais avec des contrats de 10-15 heures sur du ménage, sur de l'aide aux personnes âgées, etc., etc. Et donc là aussi, tout ça, quand vous êtes, comme disait Sophie Fay, avec un matelas d'épargne qui est nul, eh bien, et que vous êtes le 15 du mois en rouge à la banque, si on vous ampute votre nombre d'heures hebdomadaires de la moitié, eh bien, vous basculez dans la pauvreté. Et donc, on a tous ces publics nouveaux qui apparaissent dans les statistiques.
Nicolas Bouzou, la France est déjà un pays qui redistribue beaucoup. Hein, la dépense publique, c'est plus de la moitié du PIB. Est-ce qu'il faut, oui, augmenter ces aides, notamment le RSA pour les jeunes. Je cite la présidente du Secours catholique, Véronique Fayet, qui s'appuie d'ailleurs sur les théories d'Esther Duflo, notre prix Nobel d'économie. Elle dit « Aider les plus pauvres à s'en sortir, ça n'est pas une dépense sèche ou de l'assistanat. »
Alors oui, on a besoin d'un plan d'aide pour les plus fragiles, d'un plan qui soit à la fois urgent et ambitieux, puisque toutes les statistiques qui commencent à remonter sont assez catastrophiques de ce point de vue. Et au fond, on a deux phénomènes. C'est-à-dire qu'on a une augmentation de ce qu'on appelle l'intensité de la pauvreté, c'est-à-dire des gens qui sont déjà au minima sociaux, mais dont la partie revenu d'activité diminue, et donc pour lesquels on a besoin d'augmenter les allocations qu'ils perçoivent, typiquement le RSA. Et puis on a des gens qui n'étaient pas dans la pauvreté et qui sont en train d'entrer dans la pauvreté, bah, typiquement ce dont on a parlé avant le reportage, c'est-à-dire des indépendants, par exemple, qui avaient des revenus qui étaient déjà des revenus faibles, à peine au niveau du SMIC, et qui, là, subissent des baisses de revenus de 30, 40, 50 %. Et donc, on a vraiment besoin de mettre en place, pendant toute cette période de crise, une allocation exceptionnelle. Alors, il y en a déjà eu une, hein, il y a déjà eu une aide de 150 euros, mais on voit que c'est très faible, que ce n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu. Et je pense qu'on peut parfaitement le financer par de l'endettement public, à partir du moment où l'endettement public est très exactement fait pour les périodes de crise exceptionnelle. Je voudrais quand même rappeler que la crise économique que nous traversons actuellement est la plus forte depuis 80 ans. Donc c'est une crise exceptionnellement grave et donc elle nécessite, elle appelle des mesures elles-mêmes exceptionnelles, notamment pour combattre la pauvreté.
Alors justement, des mesures exceptionnelles. François Hollande, Cécile Cornudet, ce matin dans Le Parisien, le creusement vertigineux de la dette annonce, sans le dire, un plan d'austérité en 2022.
Il a sans doute vu que c'était un créneau politique qui était un peu déserté aujourd'hui et comme on voit qu'il revient beaucoup sur le devant de la scène en ce moment, et il a vu que c'était peut-être un coin enfoncé contre Emmanuel Macron. Même la droite a abandonné, sauf quelques personnes comme Éric Woerth, a abandonné le discours sur la dette. Mais c'est vrai que ce serait un problème. On a une réponse de l'État en matière de filet social, en matière de soutien aux entreprises qui est sans doute sans précédent et ça coûte des milliards et des milliards.
Donc on va avoir un boomerang fiscal dans un an ou deux.
Je ne sais pas sous quelle forme il sera, fiscal peut-être. Le pari du gouvernement, c'est qu'on n'aura pas besoin d'augmenter les impôts parce que justement le soutien de l'activité tel qu'il est aujourd'hui permettra un rebond économique dès que ça ira mieux. Et c'est vrai que ça a plutôt marché. Après le premier confinement, on a vu que le rebond économique à l'été, très vite l'activité a repris, la consommation a repris, le moral des ménages est revenu très vite. Donc le pari, si ça dure quand même pas trop trop longtemps, c'est de porter à bout de bras comme ça. Certes, ça coûte cher, mais que du coup, il y a moins de casse sociale et que ces entreprises, dès que l'activité reprendra, elles pourront recommencer à travailler.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Jérôme Fourquet, augmenter l'amende serait-il une solution pour que le confinement soit mieux respecté, puisque nous sommes apparemment redevenus des Gaulois réfractaires?
Alors, je vous disais, les Gaulois réfractaires, hein, quand on regarde les statistiques de déplacement, les Français se déplacent nettement plus qu'au premier confinement, mais quand même beaucoup moins que d'habitude. Hein, donc, il faut quand même avoir ça en tête. Moi, je ne suis pas spécialiste en maintien de l'ordre ou autre. Peut-être que d'augmenter l'amende aura un effet dissuasif. Je pense que plus que cela serait plutôt la multiplication des contrôles. Qu'on voit plus de contrôles de véhicules dans les transports ou autres. Ça, peut-être que ça peut inciter une partie de la population à être plus attentif ou en tout cas plus respectueux.
Aujourd'hui, comment sont financièrement aidés les petits commerces par l'État, Sophie Fay? Comment ça se passe? D'abord, on imagine que c'est beaucoup de paperasserie alors pour ces petits commerçants qui doivent gérer ça en alors, plus. Mais...
Oui, en fait, il faut aller sur le site des impôts et on peut remplir un formulaire pour avoir accès au fonds de solidarité. Ce fonds de solidarité, l'État a prévu de lui consacrer 6 milliards d'euros jusqu'à la fin de l'année. Et il permet d'obtenir des aides jusqu'à 10 000 euros. Mais attention, ces aides sont conditionnées au fait que vous puissiez démontrer que vous avez une baisse de chiffre d'affaires et il y a beaucoup d'obstacles. Par exemple, on a vu que si vous êtes une entreprise de l'économie sociale et solidaire et que vous avez donc un statut un peu hybride, que le gérant de votre organisation est un bénévole retraité, ben, ça vous bloque dans le formulaire. Donc là, le gouvernement essaye de régler ce problème-là. On a vu un autre problème, par exemple, si vous avez un contentieux fiscal et que vous voulez obtenir cette aide, eh bien, vous êtes bloqué par votre contentieux fiscal. Et puis, il y a des professions qui ont droit à rien. Par exemple, les extras dans l'événementiel, alors eux, il y a un trou dans la raquette, on n'a pas prévu. Donc, c'est compliqué. Il y a toujours, effectivement, de la paperasserie, puisque l'État fait bien attention de ne pas non plus distribuer l'argent sans contrôle. Et quand on arrive sur ce moment où le logiciel bug, où on n'arrive pas à aller au bout de la démarche, où on n'a personne qui répond au téléphone, eh bien là, c'est un irritant absolument insupportable, surtout, comme le rappellent souvent les commerçants, qu'ils payent la TVA, qu'ils embauchent, qu'ils payent des charges sociales, et donc ils ne comprennent pas qu'on ne leur vienne pas en aide quand ça bloque.
Ça, on l'a beaucoup entendu. Hein. Quand il s'agit de payer la TVA, il n'y a pas essentiel, non essentiel. La TVA, il faut la payer. Cécile Cornudet, question téléspectateur de Sébastien, qui est comédien dans le Calvados. Les théâtres et les cinémas pourraient-ils rouvrir en décembre ?
Ça fait partie des questions, comme les hôtels-restaurants aussi, qui certes rouvriront pas au 1er décembre, mais peut-être vers le 20 décembre, au moment du drôle de déconfinement qu'on va vivre. Toute la question, c'est de savoir si sur une longue durée, pour éviter les moments de stop and go, où on ouvre trop et après où on referme trop, le gouvernement travaille à une sorte de situation d'entre-deux jusqu'au vaccin, où il n'y aurait pas un confinement, mais il y aurait une sorte de couvre-feu sur une longue durée et encore des restrictions de réunions. Mais sinon, tout le monde pourrait reprendre une activité. Mais ça pose la question des spectacles, de la culture, qui est déjà effectivement très touchée. On a vu, quand ils avaient commencé à pouvoir reprendre, que les théâtres faisaient des matinales, des spectacles plutôt dans la journée. Mais bon, on risque de devoir vivre assez longtemps, jusqu'au vaccin, peut-être jusqu'à l'été, avec des choses quand même limitées pour la culture.
Nicolas Bouzou, comment fêter dignement Noël si on est confiné sans enrichir le tyran Amazon ? On a l'impression qu'il y a le citoyen qui veut faire du click and collect, mais il y a le consommateur qui fait surtout du collect sur Amazon.
Oui, alors permettez-moi de dire qu'il y a une certaine hypocrisie par rapport à Amazon, parce qu'on critique beaucoup Amazon, mais le succès absolument extraordinaire de cette entreprise montre bien qu'elle rend un service aux consommateurs. Les GAFA ont publié leurs chiffres du troisième trimestre il y a 10 jours. Le chiffre d'affaires d'Amazon, qui est déjà colossal, augmente de 30% à peu près par trimestre. Donc c'est quelque chose qui est absolument colossal. Après, rien n'empêche aujourd'hui aux commerçants de faire de la vente directe, de faire de la vente surprise de rendez-vous. Mais il est clair que ça ne permet pas. On commence à voir des statistiques qui montrent que le click and collect ou le e-commerce pour des commerçants traditionnels qui ont improvisé ça en quelque sorte ces dernières semaines, ça leur permet de faire un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 10, 15, 20, 25% grand maximum de leur chiffre d'affaires classique. Donc pour eux, c'est clairement pas la solution.
Je triche pour sortir. Vous voyez, on a des gens qui avouent, des téléspectateurs. Du béton autour de chez moi et une forêt à 3 km. Castex privilégie les chanceux. Jérôme Fourquet, on le voit, il y a la tentation de ne pas la respecter cette fois. On trouve que la règle est idiote, alors on la contourne.
Alors oui, alors c'est humain et français, j'allais dire. C'est quand la règle souffre de très très nombreuses exceptions. Lors du premier confinement, c'était plus facile, personne n'avait le droit de sortir. Et donc c'était beaucoup plus dangereux, on parlait tout à l'heure du risque de récupérer une amende, puisque les rues des villes et des villages étaient toutes vides. Donc là, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de circulation, et donc beaucoup de gens sont tentés de jouer avec cette règle. Rappelez-vous aussi la limite des 100 km, en disant est-ce qu'on va pouvoir aller un peu plus loin. Donc il y a tout ça qui existe, mais encore une fois, ça a été en partie pensé pour que, comme disait Cécile Cornudet, il y ait quand même un semblant de vie qui continue à exister parce qu'il y a un effet cumulatif qui est très, très pesant. C'est-à-dire qu'on est quand même à la deuxième épreuve de ce type et donc chacun essaye un petit peu de... Enfin, chacun, toute une partie de la population essaye parfois de resquiller un petit peu.
Voilà, c'est vrai qu'il y a cette blague qui circule sur Internet qui dit « Castex a inventé des dérogations pour ceux qui ont un truc à faire dehors. Voilà, donc pour dire que tout le monde peut trouver une bonne raison de sortir. Aura-t-on une troisième vague début 2021 si on lève les restrictions trop tôt? Alors, je sais que vous n'êtes pas épidémiologiste, mais évidemment, c'est le risque.
C'est le risque principal de ce Noël où on ne va pas être complètement confiné, mais il faudra s'autodiscipliner, même si ce n'est pas forcément dans les gènes français, s'autodiscipliner pour éviter qu'on soit reconfiné en janvier.
Sophie Fay, que pensez-vous de l'exemple de Barcelone? Là-bas, les petits commerces sont ouverts et les grandes surfaces sont fermées. C'est curieux, un même virus, mais des mesures diamétralement opposées.
Alors, Barcelone a fait un choix qui est propre à la Catalogne. Ce n'est pas le même choix à Madrid, ce n'est pas le même choix dans d'autres endroits. On n'a pas les mêmes structures de commerce, forcément. En France, on est quand même très dépendant des grandes surfaces. Et il y a aussi une dimension prix qui joue. Imaginez si on avait décidé de supprimer de fermer les grandes surfaces et de ne laisser que l'accès aux petits commerces. D'abord, qu'est-ce que c'est le petit commerce? Qu'est-ce que c'est qu'une petite surface? Ça aurait été plus compliqué. On n'est pas tout à fait dans la même structure. Et puis nous, on a ouvert quand même tous les petits commerces de bouche. On n'est pas obligé d'aller dans les grandes surfaces non plus. Les bouchers, les...
Ils fonctionnent très bien d'ailleurs.
Ils sont ouverts. Voilà.
Nicolas Bouzou, arrêtez de ménager les Français et leur demander franchement de sacrifier les fêtes cette année. Ce serait enfin les prendre pour des adultes.
Oui, alors on en revient à des problématiques économiques. C'est-à-dire que ce que l'on voit aussi, c'est que certains secteurs de l'artisanat, par exemple, qui ne sont pas du tout dans le radar, on parle beaucoup du commerce, à juste titre, on parle de la distribution, mais vous avez une très grande partie de l'artisanat qui fait plus de la moitié de son chiffre d'affaires à Noël. Je vais même vous prendre un exemple extrême. Les gens qui fabriquent des santons ou des crèches, ils réalisent 90 à 95% de leur chiffre d'affaires à Noël. Sachant que l'activité économique à Noël, ce n'est pas à Noël, en fait. C'est celle qui commence maintenant et qui va monter en puissance et qui atteint son apogée, en réalité, aux alentours du 10-15 décembre. Et donc, c'est très difficile d'expliquer à des gens qui font la quasi-totalité de leur activité économique à Noël qu'on va mettre Noël au printemps.
Où se situe la cote de popularité d'Emmanuel Macron dans cette tempête, Jérôme Fourquet?
Alors, la dernière mesure dont on dispose à l'IFOP, elle date d'il y a 3 semaines environ, on aura une prochaine mesure dans la fin de la semaine prochaine. Emmanuel Macron, à l'époque, était à 38% de cote de popularité, donc c'est quand même plus de 6 Français sur 10 qui sont insatisfaits, c'est beaucoup. On voit que ça râle beaucoup dans le pays, mais quand on compare à cette période du quinquennat, à ce qu'était celle de François Hollande, il était sous les 20%. Et Nicolas Sarkozy, à la même période de son quinquennat, était à 28%. Donc il y avait, il y a 3 semaines, un niveau de popularité qui était en relatif pas si mauvais que cela pour Emmanuel Macron.
Est-ce qu'il y a des personnalités, des ministres qui émergent à la faveur, enfin, à l'occasion de cette tempête, de cette crise?
Pas spécialement, encore une fois, beaucoup est focalisé sur...
Le Bruno Le Maire, dont on dit qu'il...
En partie, mais c'est, dans l'opinion, c'est beaucoup aujourd'hui le président de la République et le commandant en chef.
Voilà, eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast sur toutes les plateformes. Bien sûr, vous restez sur France 5 à la suite avec C'est à vous, Anne-Elisabeth Lemoyle. Bonne soirée sur France 5.